Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne et aujourd'hui plus particulièrement à nouveau à la musique d'orgue car il y a 15 jours, peut-être un lundi à 10h30 ou un jeudi à 15h car c'est à ce moment-là que passe notre émission, vous avez eu l'occasion d'écouter Patrick Delabre. Bonjour Patrick Delabre qui
Bonjour.
Est à nouveau avec nous dans le studio. Il est organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Chartres. Et le sujet de notre émission d'aujourd'hui, ça sera l'orgue, l'instrument et peut-être les orgues à Chartres. Patrick, vous connaissez très bien tous les instruments dans ces trois églises principales à Chartres, Saint-Pierre, Saint-Aignan et évidemment la cathédrale.
Alors je connais effectivement bien de l'intérieur ces trois instruments pour avoir passé du temps dans le grand orgue de la cathédrale, car ça fait 34 ans que je suis assis au banc de ce grand orgue et j'ai souvent l'occasion de monter pour quelques réglages, pour les offices ou pour les concerts, l'orgue soit présentable. La même chose à Saint-Aignan, qui est l'un des orgues remarquables de la ville, qui n'est pas en état pour les concerts actuellement, dont on peut penser qu'une restauration aura lieu dans quelques temps. C'est un instrument de Joseph Merklin de 1897, qui a été repris en partie en 1968, mais il y a encore une bonne partie du matériel qui est en état. C'est un instrument qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup d'élégance et qui a réellement du caractère. Il y a un troisième instrument à l'église Saint-Pierre que beaucoup d'ailleurs connaissent assez peu. Il est dommage que dans la ville de Chartres, y compris pour les touristes, les gens soient aspirés vers la cathédrale qui est un lieu formidable. Néanmoins, cette église Saint-Pierre est un très très bel endroit qui mérite vraiment d'être observé de près. Donc dans cette église, il y a actuellement un orgue qui a été construit pour partie en 1867 par Charles Gadeau, fils, qui avait refait en partie le grand orgue de la cathédrale et l'orgue de chœur à partir de 1854, en ce qui concerne la cathédrale, donc Charles Gadeau, et puis plus tard, en 1920, l'abbé Tronchet, qui a fait apport de matériaux nouveaux, de matériaux de récupération, et qui a réorganisé l'orgue autrement.
Oui, parce que ces orgues ne sont plus d'origine, les instruments qui étaient installés dans ces églises ont été détruits pendant la Révolution.
Alors, à Saint-Aignan, probablement il y avait un orgue à la Renaissance, mais on n'a aucune trace. Le fondement de l'orgue qu'on a actuellement à Saint-Aignan est un Charles Gadeau père qui datait de 1843, dont on ne sait pas grand-chose. Joseph Merklin a probablement inclus une partie du matériel et de la boiserie, à moins que tout n'ait été refait, ça on n'en est simplement qu'aux suppositions. En ce qui concerne l'orgue de Saint-Pierre, il y a... En fait, l'orgue actuel est le troisième instrument, puisque le premier instrument a été installé tout début 16e siècle par un moine qui prenait conseil à Roch de Roch d'Argilière, qui travaillait à ce moment-là à la cathédrale, et il y a une bisbille qui est arrivée très vite entre le moine et le facteur d'orgue, donc le moine a terminé son orgue tout seul à Saint-Pierre, et l'orgue a marché tant bien que mal, et il a été remplacé à partir d'une commande de 1668, commandée au grand facteur Thierry, le facteur parisien. Il y a un orgue qui a été installé en 1671 en fonte neuf et qui faisait 16 pieds de profondeur. On n'a hélas aucune trace de cet instrument, mais il est probable que c'était un instrument de grande qualité qui devait largement rivaliser avec le grand orgue de la cathédrale.
Alors, pour construire un orgue, il faut bien de différents matériaux. Où est-ce qu'on se procurait le plomb? Est-ce qu'on a une idée d'où venaient les matériaux? Sans doute pas, non? On n'a pas de traces.
Généralement, dans les orgues, il y a deux types de matériaux, le bois et le métal. Le bois, on utilise ou le sapin ou le chêne, selon les nécessités. L'un et l'autre, le sapin et le chêne n'ayant pas les mêmes qualités. Les bois résonateurs, en général, plutôt seraient du sapin, quoi qu'on trouve ce qu'on appelle, nous, des bourdons en chêne, exemple à Oudan, à 50 km au nord d'ici, il y a un orgue de François Thierry, qui date de 1636 et dont les bases de bourdon du grand orgue sont en chêne. On peut encore les voir dans leur état d'origine actuellement. Et ensuite, il y a donc du métal. Généralement, c'est un alliage de plomb et d'étain. Alors, suivant les jeux, suivant la qualité de timbre que l'on veut obtenir, la proportion d'étain et de plomb n'est pas la même.
Est-ce qu'on choisit l'alliage en fonction de la grandeur des tuyaux, par exemple ou...
On choisit essentiellement suivant la famille de timbres. Encore que les écoles diffèrent, parce que certaines écoles d'Allemagne du Nord faisaient appel à des tuyaux avec forte proportion plomb, alors que d'autres, les Français, faisaient plutôt appel pour les principaux, notamment ce qu'on appelle monte, prestant, doublette, plein jeu, faisaient appel essentiellement à de l'étain à 75 ou 80%, alors que ce qui était ce qu'on appelle nouge de bourdon, flûte 4, nazar, tierce, tous ces jeux-là étaient plutôt pauvres en étain et donc évidemment beaucoup plus riches en plomb.
Alors c'est peut-être là le grand savoir-faire des différents facteurs d'orgue, car on distingue bien les différents instruments qui sortent des différents ateliers. Il y avait comme pour les violons de petits secrets d'atelier.
Alors il y a sûrement des secrets d'atelier, d'une manière particulière de faire chez les facteurs d'orgue. Il n'empêche qu'il y a des constantes que l'on retrouve en général pour qu'un tuyau puisse sonner au mieux de sa fabrication, sachant qu'il y a une chose, il y a plusieurs paramètres qui sont importants pour le son. C'est d'abord la manière dont le son va arriver pour que le son puisse être produit. Il faut que l'air vienne taper sur un élément vibratoire fixe qui est en fait la lèvre supérieure du tuyau. Quand on voit un cylindre dont le devant est légèrement aplati, eh bien l'air arrive par la bouche, il est conduit par ce qu'on appelle le pied, et puis il vient vibrer en alternance sur cette lèvre supérieure, et c'est ce qui met en vibration le tuyau. Alors il y a plusieurs paramètres qui sont importants, c'est la largeur de la bouche par rapport à la circonférence, pourrait-on dire, du cylindre, la hauteur de la bouche, la quantité de vent qui passe, parce qu'on appelle la lumière ce tout petit espace qui permet de diriger le vent vers la lèvre supérieure. Et puis évidemment la pression, donc la vitesse avec laquelle le vent arrive, qui dépend également de l'ouverture du pied, qui est le premier contrôle de la chaîne sonore, j'allais dire.
Donc aujourd'hui l'air arrive grâce à l'électricité.
Alors maintenant l'air arrive grâce à des turbines électriques, mais avant elles étaient fournies par des soufflets qui ressemblaient d'ailleurs à des soufflets de forge. On appelait ça des soufflets cunéiformes. Pour ceux qui habitent près autour de Dreux, vous pouvez très bien aller à Oudan et on peut distinguer de loin, encore que la tribune masque un petit peu, les trois sommiers cunéiformes qui sont encore en état, mais qui ne servent plus parce que certaines parties sont abîmées. Mais en tout cas, ces soufflets cunéiformes restent encore présents. C'est au XIXe siècle surtout qu'on a changé la manière d'organiser le vent, car le vent est l'élément moteur dans l'orgue. Si le vent est trop fragile, eh bien le son ne peut pas être établi. Je vais donner un petit exemple vocal. Imaginez que je tienne une note. Que le vent ne soit pas régulier, quand je joue autre chose, ça risque de faire et si on doit jouer plusieurs notes en même temps, si chaque tuyau fléchit de cette manière-là, la musique devient totalement incompréhensible. Donc la grande difficulté, une difficulté majeure de l'orgue, est de faire que le vent soit relativement stable pour qu'on puisse bien comprendre les intervalles, pour que l'harmonie puisse se révéler comme l'a voulu ou celui qui improvise ou celui qui a écrit la musique.
Donc à ces premières époques, l'organiste n'était jamais seul, il y avait toujours au moins une personne qui faisait marcher les soufflets.
Il y en a un ou deux forcément qui montaient, généralement ça pouvait être des enfants de chœur. Ici, dans le grand orgue, tout à fait en haut de la tourelle de droite, ce que nous on appelle la tourelle dièse, à la naissance de la voûte, il est gravé dans la pierre « I, Julien, et toi folle, lorsqu'il mit moi, I, Simon, ici. » Alors c'est écrit en ancien français, c'est gravé dans la pierre. Ça signifie que Gilles Julien, qui était organiste de 1663 à 1703, avait dû un jour piquer une colère contre les deux enfants de chœur peut-être, ou les deux assistants censés lui donner l'air nécessaire au grand orgue. De colère, il a dû les enfermer, et peut-être qu'ils y ont passé la nuit, et de vengeance, ils ont gravé dans le mur cette phrase qui donne beaucoup de goût. D'ailleurs, quand on est à 30 mètres du sol, qu'on regarde ça, on a un sourire, et en même temps, c'est une page d'histoire qui s'ouvre, parce qu'on est au cœur de l'histoire de la musique. L'histoire aussi de la musique est faite de ces éléments dont on ne sait rien, et pourtant qui ont bien existé.
On pourra peut-être écouter un petit morceau d'orgue.
Alors, nous allons écouter un impromptu de Louis Vierne, un extrait pour que ce ne soit pas trop long, que Michel Bouvard joue sur l'orgue Saint-Cernin de Toulouse, qui est un orgue qui a été fabriqué par le grand facteur d'orgue Aristide Cavaillé-Colle à la toute fin des années 1886 à peu près. Un tout petit détail, pour ceux qui habitent le sud du département, on ne peut que recommander d'aller à la cathédrale d'Orléans, car il y a un grand Cavaillé-Colle qui vient d'être restauré il y a peu, qui est un instrument de 54 jeux et qui est une splendeur dans le genre. Lorsqu'on est au pied de cet instrument et qu'on joue la musique adaptée, on est au cœur de l'histoire de la musique, on est au cœur de la création artistique. Alors, il ne s'agit pas de l'impromptu de Vienne, mais d'une autre pièce, en tout cas caractéristique de cette époque-là, donc une époque romantique, fin 19e, début 20e siècle.
Alors, l'orgue de Chartres est un instrument que vous connaissez très bien, comme vous avez dit, depuis 34 ans, vous êtes organiste titulaire, Patrick Delarbre.
Je suis organiste depuis 24 ans, organiste
24 ans, titulaire,
et j'étais organiste adjoint de Philippe Lefebvre de 76 à 86.
Donc, une très longue période qui vous a permis de découvrir l'orgue sous toutes ses facettes. Est-ce qu'on sait où se trouvait l'orgue avant d'avoir été installé sur le mur sud de la nef, où il subit sans doute un peu les écarts de température?
Alors en fait, il a toujours été installé là, car la balustrade qui court le long du positif, qui est cette avancée, cet avant-orgue que
l'on
a...
Qu'est-ce qu'un positif pour quelqu'un?
Alors le positif de dos, c'est une partie, c'est un petit orgue qui est installé derrière le dos de l'organiste. En fait, ça permet de mieux entendre les détails d'une polyphonie, puisque cette partie de tuyauterie est placée plus proche du peuple. Imaginez, vous allez très vite comprendre, je m'éloigne du micro pour parler, je parle avec la même force et je suis plus proche de l'auditeur. Donc on comprend mieux l'élocution de ce qui est écrit par la présence du positif de dos. Donc je disais que la balustrade qui court le long du positif de dos est un travail du milieu 14e siècle. On ne sait rien de Storg, mais on sait qu'il y avait un instrument à cet endroit-là. L'histoire est assez compliquée, mais on peut retenir quelques dates principales. 1475, Gomborogerie refait un instrument dans lequel, effectivement, lors d'une autre émission, j'évoquais cela, il y avait 50 tuyaux par marche, qui étaient en fait des tuyaux qui étaient doublés par eux-mêmes, ou doublés en octave, ou en double octave, avec des quintes, donc des notes intermédiaires pour sonner le plus clair possible et de manière la plus franche dans la nef. Ensuite, cet orgue a été transformé en profondeur par Robert Filleul à partir de 1542. Robert Filleul a d'ailleurs signé son travail en haut de la tourelle de droite. Il y a une signature avec un R, les lettres Filleul, F-I-2-L-E-U-L, fait à l'encre de manière très élégante. Et de l'autre côté, on a les chiffres 1546, écrit à l'ancienne, donc une barre légèrement de côté. Enfin, je ne peux pas décrire parce que c'est un petit peu délicat de parler de dessin si on ne peut pas se le figurer. En tout cas, vous imaginez une écriture penchée, des traits relativement fins, c'est très, très élégant et c'est émouvant de se retrouver à plus de 30 mètres du sol face à cette signature. Donc, travaux de 1542, à ce moment-là, l'orgue commence à avoir des registres séparés. Et il y a un positif de dos qui est installé avec un petit jeu soliste, et de fil en aiguille, l'orgue va évoluer. Il y a un grand facteur d'orgue qui travaillera dans le nord de la France, tout au moins au nord de Paris, et qui viendra travailler à Chartres, qui s'appelle Crépin Carrier, et qui changera profondément la physionomie de l'instrument. Hélas, on n'a aucune trace de son travail, mais on sait qu'il est venu, que les travaux ont duré un certain temps, ont coûté un prix important. Et à partir de là, l'orgue a trouvé une physionomie, donc dans l'orgue, pourrait-on dire, classique français. Dans une émission précédente, j'ai pu faire entendre une fantaisie de Charles Racquet, ainsi qu'un extrait d'une hymne de Jean Titlouse, qui était organiste à Rouen. C'est à ce moment-là que l'orgue prend cette configuration. Après, il évolue de différentes manières, mais l'essence de l'orgue, le principe même de cet orgue est présent et va se développer tout au long, pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle.
Et qu'est-ce qui fait avancer ? C'est l'innovation des instruments qui fait avancer la musique ou c'est une adaptation à une musique qui évolue, qui fait qu'on va changer la physionomie des orgues ?
Alors, c'est interdépendant. Voilà, il suffit d'écouter un timbre pour un musicien sensible, pour un compositeur. Il y a à la fois le projet compositionnel et la manière de mettre en œuvre les timbres dont qu'il a en disposition. Sur certains instruments, on arrive, on écoute, on tire un jeu. Voilà, le jeu sonne d'une certaine manière que, à lui tout seul, il représente une entité puissante, qui est très évocatrice, qui éveille l'imagination de celui qui le joue. Donc c'est très, très, très puissant pour, soit pour composer, soit pour interpréter ce que l'on a à interpréter. Tous les instruments ne sont pas comme ça, des instruments qui sont faits de manière plus ordinaire. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas que des chefs-d'œuvre à disposition, mais on a quand même beaucoup d'instruments dans notre patrimoine qui sont vraiment de très très belle qualité. Là où les choses commencent à changer, c'est quand on commence à parler de puissance. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'on a commencé à vouloir plus de magnificence, plus d'ampleur. Et là, les choses ont commencé à bouger, parce que les jeux forts de l'orgue, qu'on appelle trompette et clairon, il y a d'autres termes, comme cromorne et autres, ont pris plus d'ampleur, sont devenus vraiment plus sonores. Et ça a changé la configuration de l'instrument, petit à petit. Au moment où la musique liturgique, d'ailleurs, avait pris un tour particulier, la fin du XVIIIe siècle n'est pas très riche, en fait, pour nous, musiciens, en partitions remarquables. Il faut attendre, c'est la période de transition, donc à partir des années 1830, où l'orgue va prendre un tour différent. Il y a des apports de jeux nouveaux qui vont arriver, parce qu'on va également se tourner certains apports du XVIIIe siècle en Allemagne. Finalement, les mélanges vont commencer à se faire et on va viser un instrument qui va davantage imiter l'orchestre que l'entité orgue pour ce qu'il était pour lui-même. Et donc ça va changer beaucoup la couleur, ça va changer le toucher, les mélanges, et ça va donner lieu à un répertoire complètement nouveau. Quand on a au XIXe siècle un jeu qui est issu du cromorne mais qui est légèrement transformé, qu'on va appeler clarinette, ça dit bien, ce nom dit bien que c'est un nouvel instrument qui est un instrument d'orchestre qui est né à la fin du XVIIIe siècle. Il y a comme ça d'autres noms qui apparaissent et suivant la manière, le génie des facteurs d'orgue, les uns et les autres, font que, eh bien, le chemin évolue comme toute personne, comme nous-mêmes évoluons dans notre propre projet personnel, et ça donne un résultat qui fait que chaque orgue est une entité propre, qui fait que chaque facteur d'orgue a sa personnalité, et qu'un orgue ne sonne pas de la même manière, n'est pas fabriqué de la même manière, ne parle pas la même musique au milieu de la France, que dans le sud de la France, que dans le nord, en Allemagne du Sud, en Allemagne du Nord, en Flandre, etc.
Et on ne peut donc pas jouer sur un orgue donné du XVIIe de la musique romantique, par exemple.
Non, ça sera difficile. Ça n'est pas approprié. Au moins, ne serait-ce que par une chose, parce que le partage du clavier n'est pas fait de la même manière. À savoir que ce qu'on appelle le clavier chromatique, pour nous musiciens, signifie que entre ces mots, il y a 12 notes à partager. Le mélange est à peu près, enfin, l'espace entre les demi-tons est à peu près le même. Mais au XVIIe siècle, il n'était pas le même. Il y avait des intervalles de demi-tons plus petits que d'autres plus grands. Si bien qu'on ne pouvait pas jouer dans tous les tons. On jouait essentiellement dans les tons que l'on dit d'église, qui étaient grosso modo les tons fondés sur do, ré, fa et sol.
Oui, où il n'y avait que des tons entiers et...
Oui, on avait les premières, les quelques tons majeurs, quelques tons mineurs, et on pouvait très peu se promener dans les claviers. Ce qui fait que ce tempérament assez inégal a été d'ailleurs dans l'histoire toujours, non pas combattu, mais on a cherché à essayer de l'assouplir parce que ça fermait la porte à beaucoup de possibilités. Et peu à peu, dans l'histoire, les uns et les autres, les facteurs d'orgue ou même les organistes, les théoriciens, les compositeurs ont trouvé d'autres manières de répartir le demi-ton pour arriver maintenant à ce qu'on appelle une partition égale où on peut pratiquement jouer dans tous les tons.
On va peut-être illustrer le propos par une petite pièce d'orgue.
Alors, justement de force, on va pouvoir écouter le début de la toccata de la 5e symphonie de Charles-Marie Vidor que joue Michel Bouvard sur cet orgue Saint-Cernin de Toulouse. Alors cette pièce formidable que beaucoup connaissent clôt la 5e symphonie de Charles-Marie Vidor. Et quand on écoute cette symphonie en entier, en fait, on est saisi par la puissance et la vigueur de cette toccata qui prend la suite d'un mouvement lent très très calme. Et comme on est à peu près au bout d'une demi-heure de musique, c'est assez saisissant. On entend bien la puissance de l'instrument qu'un instrument du 17e, voire du 18e, ne pouvait pas rendre. On se rend compte également que le jeu de l'instrumentiste ne peut pas être très rapide, sinon la machinerie ne peut pas suivre, ou tout au moins la compréhension des notes en bas est trop confuse. Donc dans les grands lieux, on ne peut pas se permettre de jouer trop vite, même si on a envie, sinon c'est au détriment de la compréhension, de la lisibilité de la musique.
Cette demande extraordinaire qu'on découvre grâce à vous, en vous écoutant, on se rend compte qu'on est loin de tout connaître sur la musique des cathédrales. Vous connaissez bien Marie-Reine Renon, Patrick Delarbre, qui est un docteur en musicologie.
Alors Marie-Reine Renon, je l'ai côtoyée pendant de nombreuses années, puisque pendant 20 ans j'ai été professeur d'harmonie et de contrepoint au conservatoire de Poitiers, et j'étais chargé de cours à l'université, et j'ai pu croiser cette musicologue qui avait un regard assez tourné vers la Renaissance et l'après-Renaissance, et qui va venir faire profiter de son savoir ceux qui voudraient s'inscrire au cours de musique des cathédrales, qu'elle donne les mercredis de 14h30 à 16h à partir de début décembre. C'est une personne tout à fait gentille, tout à fait aimable. Et voilà, ce sera, j'envoie ce sourire à Marie-Reine. Voilà, vous verrez, c'est une personne épatante.
Voilà, pour les personnes qui seraient intéressées, ils peuvent téléphoner au Centre international de Vitrail qui a créé une école pour diffuser le savoir sur tous ces pans de l'histoire, non seulement des cathédrales, mais aussi des différents arts. Alors, la musique à Chartres est donc un domaine bien gâté par la cathédrale, où sont organisés les festivals tous les étés par l'association des grandes orgues de Chartres, qui permet de découvrir ces différents timbres. Parce que tout à l'heure, vous disiez, on peut faire sonner le registre trompette, cromorne, clarinette. Comment est-ce qu'on obtient ces sons qui ressemblent à ces instruments d'orchestre ?
Alors, ces timbres sont déterminés par la forme des tuyaux. D'abord, vous venez de citer des tuyaux qu'on appelle des tuyaux à hanches. C'est le même système que les becs de clarinette, vous savez, l'instrumentiste, fait vibrer une languette qui est amplifiée par un pavillon, ce pavillon étant par cette troupe pour faire un certain nombre de résultantes, pour faire les notes différentes. Pour l'orgue, c'est différent, puisque pour chaque tuyau, il y a une note et une seule note possible. Donc si on a un tuyau qui sonne luth grave de 16 pieds, mettons, il faut un tuyau de 4 mètres 40. Si on veut un 4 pieds, eh bien ça fera 1 mètre 10 de long. Il y a une forme conique particulière qui est plus ou moins évasée suivant le résultat qui est demandé. Et puis l'endroit qui produit le son, c'est-à-dire la languette qui vibre sur le canal, la languette est plus ou moins épaisse, plus ou moins large, le canal est plus ou moins profond, ça c'est selon. Donc on a un jeu conique pour la trompette. Pour le hautbois, c'est un petit peu différent, c'est un jeu qui est simplement conique, largement évasé en haut du tuyau. Mais la plus grande, il y a au moins les 4/5 du tuyau qui sont en fait un cône très 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 évasé qui s'ouvre simplement dans le haut. Pour le cromande, c'est un peu différent. En fait, c'est un cylindre qui sonne. D'ailleurs, la manière dont sonne ce tuyau, il sonne, je crois, à la moitié de la longueur. Si on a une longueur L pour sonner sur cette note-là, mettons, eh bien, le cromande a un corps résonateur qui devrait faire sonner cette note-là. Voilà, l'octave au-dessus. Mais la manière dont ça sonne fait que ça sonne donc à la même hauteur. La forme du tuyau est différente. La qualité de la languette vibrante qu'on appelle donc cette languette qui est posée sur le canal, c'est trois choses vraiment importantes pour que l'orgue sonne, pour que les anches sonnent. Les anches, ça s'écrit donc A-N-C-H-E-S, puisqu'il y a un pluriel. Il y a également quelque chose qui est important, c'est le matériau lui-même. Suivant que le matériau est plus ou moins riche en étain, suivant qu'il est martelé, il est plus ou moins rigide. Et cette rigidité est importante pour la projection du son.
Parce que les tuyaux sont le résultat de la fonte ou
dans un moule? C'est le résultat d'une fonte d'une plaque de métal plus ou moins épaisse qui est donc découpée selon des...
Et roulée ensuite?
Alors ils sont roulés sur le terme va m'échapper au moment où je dois le dire, sur des patrons en quelque sorte, des découpes extrêmement précises au millimètre près, hein, puisque c'est dans l'établissement des tailles des tuyaux que le facteur d'orgue a déjà une idée du son futur de l'orgue. Quand dans son atelier il détermine toutes les tailles, ce qu'on appelle les diapasons, les hauteurs de bouche, largeur de bouche, largeur du diamètre par rapport à la hauteur, c'est déterminant pour les qualités de timbre.
Alors nous sommes loin d'avoir épuisé tout ce qui concerne l'orgue. Je vous remercie beaucoup Patrick Delarbre de nous avoir présenté ces trois instruments majeurs de Chartres à Saint-Pierre, Saint-Aignan et dans la cathédrale de Chartres. Question personnelle, il y a combien de tuyaux dans la cathédrale de Chartres?
Alors j'avais compté 4877 tuyaux qui parlent. Mais je me...
4877.
Oui, c'est un chiffre effectivement important, ce qui laisse entendre que quand les tuyaux sont installés, ils sont censés être installés pour longtemps et que ça demande un soin particulier pour ne pas qu'ils soient abîmés. Sinon, évidemment, ça engendre des dommages pour l'instrument. Et les grands facteurs des siècles précédents installaient leurs instruments pour plusieurs générations, ce qui n'est peut-être plus le cas pour tous les orgues maintenant.
Ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Delarbre. À très bientôt, chers auditeurs, dans notre prochaine émission. Merci beaucoup Patrick.
Merci, bonsoir.